Nous sommes en guerre.
Brothers and sisters, we are one country. We are one people.
Pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sens prêt à tuer.
Voici que Christ va dire la chose suivante. Remets ton épée à sa place, car quiconque prendra l'épée périra par l'épée.
Le Mouvement pour la paix, une émission pacifique et conciliante proposée par le comité Pax Rona.
Bonjour à tous, nous voici avec le comité Pax Rona qui fait partie du Mouvement pour la paix qui sont venus spécialement aujourd'hui à Radio Intervalle pour nous présenter les sujets qui nous concernent en ce moment avec des guerres qui ensanglantent nos pays, la guerre avec l'Ukraine, la guerre avec Palestine, Israël. Et on va aborder aujourd'hui une question dont vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience, c'est le SNU. Alors, qu'est-ce que c'est que le SNU ?
C'est le Service National Universel. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron lors de son élection en 2017. Il nous parlait d'un service national de durée courte, obligatoire et universel, encadré par les armées et la gendarmerie nationale, qui s'adresserait aux jeunes femmes et hommes aptes de toute une classe d'âge. En gros, on avait compté 600 000 personnes. Or, ce service cible des jeunes de 15 à 17 ans. Il n'a rien d'universel. Il est organisé sous l'égide du ministère de la Défense, c'est-à-dire de l'armée, avec l'éducation nationale. Et il est encadré principalement par des militaires, des gendarmes, des réservistes et d'anciens combattants.
Vous dites que ça ne concerne que les 15-17 ans. Donc on a plutôt l'impression d'un enrôlement. Hein. D'ailleurs, je suis allé voir sur le site de gouvernemental et c'est vrai que le SNU est présenté comme une opportunité pour la jeunesse de s'engager, de vivre une nouvelle citoyenneté, hein, de la solidarité. C'est toutes sortes de valeurs qui nous sont présentées comme un moyen d'être un bon citoyen. On ne voit pas le côté militaire dans ce site, ça apparaît pas vraiment.
Bien sûr, c'est de la communication, ça. Il faut, enfin, c'est une tromperie, ce SNU. En plus, il s'adresse à des mineurs, 15-17 ans. 15-17 ans, on est mineur, on ne peut pas obliger des enfants. Il l'a présenté au départ comme obligatoire. Il ne l'est plus, hein, obligatoire. Enfin, il est obligatoire d'une autre manière, mais il n'est plus officiellement obligatoire. On ne peut pas imposer à des enfants de 15-17 ans de faire le service national universel. Et pourtant, donc il y a un problème de constitutionnalité déjà sur ce projet. Bon, alors il le présentait comme un moyen de creuser les qualités républicaines, un moyen de remettre le goût de l'engagement, impliquer la jeunesse française dans la vie de la nation. Il nous a dit aussi, et ça je pense qu'il faut qu'on l'entende, je cite ses paroles, hein, c'est entre guillemets, permettre aussi de disposer en cas de crise, or nous sommes en crise, d'un réservoir mobilisable complémentaire de la garde nationale.
Donc pour vous, le danger, c'est que le SNU qui est présenté effectivement comme une colo sympa, c'est d'enrôler les jeunes.
Mais oui, c'est un processus de militarisation, vous voyez bien, même le vocabulaire, enfin, tout le vocabulaire est un vocabulaire militaire. Quand on regarde le programme de quotidien de ces jeunes, c'est lever 6h30 le matin, cérémonie de lever des couleurs avec le salut au drapeau, chant de la Marseillaise, suivi par les participants de différents modules sur les thèmes d'engagement retenus. Donc on voit bien que le premier séjour, qu'ils appellent ça un séjour de cohésion, qui est la phase principale du SNU, et qui se déroule sur 2 semaines, ben c'est une manière de conditionner de conditionner des enfants, 15-17 ans, ce sont des enfants, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir encore.
Pourtant, c'est organisé par la DSDEN, Direction des services départementaux de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a également des militaires présents sur place ?
Bien sûr, et des militaires en uniforme. Des militaires en uniforme. Alors, vous savez très bien que l'uniforme en impressionne certains. Ce n'est pas la première fois que des militaires en uniforme, des gendarmes, entrent dans les établissements scolaires. Mais là, ils y entrent pour former. Ils y entrent sur les budgets de l'éducation nationale. Vous dites que c'est organisé par l'éducation nationale. Non, c'est organisé par l'armée qui prend la main de l'éducation nationale. Et quand je dis prend la main, c'est-à-dire qu'elle prend l'argent de l'éducation nationale. Moi, je suis un ancien professeur. Nous avons manqué et nous manquons toujours d'enseignants. On n'a pas les budgets nécessaires pour recruter du personnel. De la primaire, c'est sûr. Maternelle, je ne suis pas certaine. Mais de la primaire au bac, au lycée. Et on va dépenser de l'argent pour inculquer aux jeunes des idées qui ne sont pas de leur âge, quoi. On ne leur apprend pas à penser. On leur apprend à se conformer à un discours militaire et militariste.
Bon, peut-être il faut rappeler la fin de la conscription obligatoire. Ça date de quelle époque ?
La fin de la conscription obligatoire, c'est Jacques Chirac qui l'a annoncé complètement par hasard au détour d'une interview. Je crois que c'était fin 96. Et elle a été officialisée par Chirac en 1997 et devenue effective en 2001. Voilà. Il a été remplacé par cette journée de défense et de citoyenneté.
Parce que aujourd'hui, on a affaire à une armée de métiers. Oui. Est-ce que l'armée française a du mal à recruter ?
Bien sûr. C'est Macron qui nous dit qu'il manque, alors je ne sais plus, j'ai les chiffres, je vous ai donné tout à l'heure, il manque environ 2500 recrues par rapport à l'objectif fixé. Ce sont les paroles, je les ai relevées dans le Figaro en octobre 23. Il manque en 2023 environ 2500 recrues par rapport à l'objectif fixé et une recrue sur trois quitte l'institution dans les 6 premiers mois. C'est voilà, le Figaro.
Donc finalement, ça pourrait expliquer pourquoi le SNU soit une manière détournée de sensibiliser la jeunesse à s'engager finalement. Oui,
mais... Et dans un contexte où l'école perd de ses qualités, dans un contexte où le bac ne vaut plus ce qu'il valait, et dans un contexte où les jeunes ne peuvent plus espérer construire leur avenir comme nous l'avons construit, nous, ils n'ont plus du tout. Eh bien, l'armée, c'est une possibilité. D'autant plus que je vous donne aussi une information qui est quand même pas innocente. Ceux qui font le SNU, parce que du coup, ils l'avaient annoncé comme obligatoire, mais il ne l'est pas, lui, obligatoire. Il ne l'est pas. Hein. Les jeunes sont très, très influencés à le suivre, mais il n'est plus obligatoire. Mais il n'empêche que faire le SNU, ça permet d'être inscrit, permet d'obtenir un accès à une plateforme d'apprentissage du code de la route et lui permet par la suite de s'inscrire à l'examen du code de la route sans le moindre coût.
Oui, voilà, il y a une grande incitation auprès des jeunesses pour participer au SNU. On leur paye leur code de la route, ils passent une belle journée de colonie. Mais est-ce que ça va vraiment les engager ? Est-ce qu'il y a un engagement de leur part ? Est-ce qu'ils signent quelque part quelque chose ? Ou est-ce que ça en reste pour l'instant à de la sensibilisation ?
Alors, le séjour de cohésion n'est pas obligatoire, mais il est suivi par une mission d'intérêt général. Et ensuite, ils ont la possibilité de poursuivre leur engagement en France ou dans le monde. Le texte, c'est qu'à la fin de ce parcours, chaque individu a la possibilité de poursuivre son engagement volontairement. Mais il est largement incité. Enfin, il y est incité.
Parce qu'il y a quand même des questions qui se posent avec notamment la guerre en Ukraine aujourd'hui, avec cette volonté de notre président de vouloir en découdre. D'abord, peut-être une question sur l'objection de conscience. Est-ce que l'objection de conscience est encore possible aujourd'hui dans notre système actuel ?
Non. Ce n'est plus possible. Quand les textes sont sortis sur le SNU, il a bien été dit clairement qu'on ne pourrait plus être objecteur de conscience.
Alors, si on parle un petit peu d'historique de l'objection de conscience,
C'est Louis de Coin, qui était un militant antimilitariste et pacifique, et avec l'assentiment du général de Gaulle, qui a fait adopter cette loi d'objecteur de conscience en décembre 1963.
Donc qu'est-ce qui se passait avant? Ça veut dire qu'avant, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, on ne pouvait pas être objecteur de conscience. Si on devait servir de chair à canon, on devait y aller. C'est ça un peu l'idée.
Sinon, on était emprisonné.
Emprisonné ou fusillé.
Voire fusillé. Ouais.
Donc l'objection de conscience permet à quelqu'un de pacifiste de dire « Non, moi je ne porterai pas l'arme et je n'irai pas faire le zouave sous les... comme char à canon. »
Oui. Oui, et il faut dire que ce statut découle du refus qu'ont eu beaucoup de personnes, françaises ou non, de participer à la guerre d'Algérie. Ça a été fait en 63 suite à l'enrôlement pour la guerre d'Algérie, qui n'était pas une guerre, bien entendu, comme tout le monde le sait. Donc, ça a été adopté en 63. 20 ans plus tard, sous Mitterrand, la loi Jox a assoupli ces conditions. Il suffisait simplement d'envoyer une lettre type pour demander ce statut d'objecteur de conscience. Aujourd'hui, voilà, comme le dit Anne-Marie, le changement avec le service militaire qui n'est plus obligatoire et qui a été remplacé par cette journée de défense, a changé la donne. Et donc aujourd'hui, rien n'est prévu par la loi du 28 octobre 1997.
Donc c'est un flou juridique.
C'est un flou juridique. Par contre, il faut quand même qu'on rappelle que le droit à l'objection de conscience au service militaire repose quand même sur l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit à chacun, normalement, la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction. Or, l'obligation d'envoyer la force au prix de vie humaine peut être gravement quand même en conflit avec la liberté de conscience ou le droit de manifester sa religion et ses convictions.
Alors c'est d'autant plus inquiétant parce que je suis allé sur les 5 objectifs de la nouvelle loi de programmation militaire 2023 qui a donc été votée dernièrement. Et il y a bien l'idée d'augmenter le budget le budget militaire de l'armée française. Et puis il y a aussi sur les 5 objectifs l'idée d'accroître les forces morales avec le retour de la guerre en Europe. J'ai entendu même des lanceurs d'alerte qui disaient que la mobilisation pouvait être maintenant obligatoire pour les femmes comme pour les hommes, jusqu'à 75 ans, ça paraît quand même extraordinaire, et possibilité aussi de réquisitionner les biens. C'est quand même vraiment très inquiétant, ce genre de choses.
C'est le fond du problème. Moi, j'ai eu mes deux oncles, les deux seuls que j'avais, les frères à ma mère, se sont fait zigouiller tous les deux en 14. Il y en a un qui a sauté, il était assis au pied de l'arbre, bon, il a sauté, n'en parlons plus. Mais l'autre a été blessé, si je lisais encore sa fiche, parce que j'ai les fiches, j'ai su les amener, la fiche où on annonce le décès de cet oncle, c'était sa 6e ou 7e blessure, et hospitalisé chaque fois, blessé au bras. Alors lui, il fallait toujours repartir, et il repartait. Ma mère disait, il repartait avant que sa permission officielle soit finie. Il fallait aller chasser le Bosch. Oui, il y avait... Alors l'objection de conscience, il en était loin, lui.
Et oui, on en était loin.
Alors si maintenant on éprouve le besoin de la réincarner, de la réintroduire, c'est pas étonnant, parce que il y a eu les fusillés, nous on a eu une exposition, les fusillés pour l'exemple, en 1914, Pétain il en a fait fusiller des centaines, des dizaines tout au moins, et il y en a eu des condamnations à mort, 500 ou 600, il y disait, il faut créer une atmosphère de terreur. Oui. Il était loin de l'objection de conscience. Alors, elle s'est perdue depuis, l'objection de conscience. Et maintenant, il va la réintroduire. Je pense que c'est ce que gamberge Macron.
Oui. Par contre, par rapport au lanceur d'alerte qui explique que ça va être une plage très très longue, il faut peut-être être aussi un peu prudent parce qu'il y a peut-être beaucoup d'informations un peu fausses qui circulent. Aujourd'hui, sur l'âge de départ, si ça existait, bon, je ne dis pas que c'est pas impossible, mais bon, c'est pas confirmé, mais enfin quand même, ça entretient une atmosphère guerrière, on va dire.
Alors j'avais une question de fond pour vous, le comité Pax Rona. Est-ce que le pacifisme est vraiment une solution pour éviter la guerre? Et l'exemple qu'on nous donne souvent, c'est le pacifisme avant les nazis. La France était pacifique, elle avait vécu cette guerre de 14-18 dont vous nous parliez, Dodo, à l'instant, qui a été une terrible, un charnier incroyable. Et donc la France était devenue pacifiste. Or, ça ne l'a pas préparé à affronter un Adolf Hitler qui, lui, voulait en découdre, qui, lui, était en train de s'armer à toute vitesse. Est-ce que le pacifisme peut vraiment faire obstacle à des fous furieux comme Adolf Hitler, par exemple?
Alors sur la dernière guerre, c'est vrai que dans un premier temps, la résistance a été non violente. Ce n'était pas des actions armées. De toute façon, il fallait avoir les armes, hein, pour faire des actions armées, ce qui n'était pas donné. Mais ça se jouait avec des lâchers de tracts. Par exemple, à la Sorbonne, contre les lois antisémites de Vichy, au tout début, il y a eu des lâchers de tracts. La commémoration de l'armistice du 11 novembre, en différents points, notamment à Paris. Et puis, on ne sait pas, enfin on l'a oublié certainement, mais en mai-juin 1941, il y a eu une grande grève des mineurs. Et la résistance, c'est aussi de bloquer des pièces. Vous travaillez dans l'industrie, vous faites des petites erreurs sur les pièces, ça entraîne des cassures sur le matériel. Voilà, la résistance non violente a commencé contre Hitler.
Donc la résistance sans violence, lâcher de trac, grève, sabotage également. Hébergement des juifs et des soldats qui fuyaient. Donc, il y avait quand même déjà moyen de s'investir.
Il y avait moyen de faire la résistance. Alors après, le constat, c'est que malheureusement, ça a fonctionné, mais ça n'a pas été suffisant.
70% de pétainistes, dont ma mère, qui disait « Pétain a économisé du sang, puisque mes deux frères ont été dégouillés en 14, mais en 40, il a fait en sorte que mes enfants, parce que nous étions trois... »
Mais la résistance non violente, est-ce qu'elle est vraiment efficace, Brigitte?
Ça, c'est une colle. Oui. Oui. Si on est nombreux, oui.
Voilà.
Je dis, Loïc parlait de tracts, on parlait de grève. Il y a eu aussi des chansons. C'est aussi une résistance, les chansons.
Chantez-les à nous pour voir. La chanson de Montand, par exemple.
La chanson de Francis Lemarque, la chanson de Boris Vian. Alors c'était pas pour 39-45, c'était plutôt entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, parce que voilà, il n'y a pas eu que la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a quand même connu deux autres guerres.
Donc en tout cas, vous dites que avant de vouloir engager ses forces dans une bagarre, il y a quand même beaucoup de recours, mais c'est quand même l'idée de résister. On n'est pas là, on ne fait pas du monde du bisounours, hein, quand je cherche le terme. On sait que parfois il faut s'opposer, et même s'opposer vivement, au prix de sa vie, parfois.
Et il faut bien informer les jeunes que l'incorporation n'est absolument pas suspendue. Aujourd'hui, ils n'y vont pas, mais ce n'est pas suspendu. L'appel sous les drapeaux peut être rétabli à tout moment par la loi.
On peut prendre un autre exemple qui est plus récent, c'est les Kurdes. où effectivement ils ont été par la Turquie attaqués, pilonnés, et où à un moment donné s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait. Et là, ils ont été obligés d'admettre, en fait, ça n'a pas été facile, mais qu'il n'y avait pas d'autre solution s'ils voulaient vivre que de prendre des armes, notamment au Rajava.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on arrive au terme de cette émission avec, sur le SNU, Service National Universel, qui pose question, parce que ce n'est pas simplement une petite colo organisée par l'Éducation nationale. Il y a effectivement la volonté de sensibiliser la jeunesse à rentrer dans la carrière de militaire. Donc attention, quand vous voyez vos enfants, vos jeunes, il faut être conscient de ça. Merci beaucoup au comité Pax Rona de nous avoir alertés à ce sujet. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.
C'était le Mouvement pour la paix, une émission proposée par le comité Pax Rona.